Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h02 sur RMC, la deuxième heure de Roten sans flamme. C'est maintenant avec Jean-Michel Larquet, avec Pascal Olmeta, avec Benoît Boutron. On se régale depuis 18h, comme d'habitude. Hein, on fait une excellente rentrée. Hein,
Benoît. Ah ouais,
ouais, on a eu des bons invités et c'est pas fini.
Ouais,
vous êtes pas au bout là.
C'est vrai aussi.
De vos surprises. Oui, c'est vrai qu'un meilleur Pascal que la semaine dernière.
Cet été, autant il s'en remet un peu en
La semaine dernière, il était moyen, mais bon, là, on lui a fait un programme sur mesure.
Bah, oui,
c'est normal qu'il tire son épingle du jeu.
Jean-Michel en forme, surprenant.
Jean-Michel, il y a eu un petit bug à la demi-heure. Là. Il a oublié d'appuyer sur le bouton.
Écoute.
Mais bon. Exactement. L'infirmière est passée par là, donc là ça va.
On la salue, Henriette, qui nous permet d'avoir Jean-Michel.
L'infirmière Henriette.
Henriette ou Geneviève?
Non, c'est Henriette.
D'accord.
Bon, on la remercie Henriette. Parce que grâce à son travail, on bénéficie.
Ça vous amuse, là, des clowns. Ça vous amuse, les clowns. Qu'est-ce que vous allez faire quand je serai
plus Jean-Michel, qu'est-ce que vous m'autorisez ton fauteuil maintenant
Est-ce que t'as une rampe d'accès sur l'escalier?
Un truc pour me rendre j'ai là une rampe pour me monter au premier étage.
Ah, tu l'as, ça y est, c'est incroyable. C'est long par contre.
Il n'y a que la rampe pour te monter.
Bon, allez, bref. Passons à autre chose. Il y aura le quiz pour vous expliquer à 19h45, tous contre Roten. Carte cadeau de 100 euros chez Maison Scarlett, marque française de fabrication de boîtes à montres et boîtes à bijoux. 32-16 touche 4 au quiz au 7-32-16. On parlera de Lyon à 19h30, la VAR de Roten s'enflamme. Est-ce que le départ de Malik Fofana est un vrai coup dur pour l'OL? Mais tout de suite, la prise de position de Jérôme Roten. Rendons hommage au vrai héros du football français.
Ouais. Qu'est-ce que le syndrome du sauveur et comment s'en libérer?
Oui, c'est moi, c'est l'Olivier Letton.
Dans quelle mesure ça entretient des relations saines d'aider les autres?
J'ai un gros problème, j'ai horreur de la politique. Donc nous, on fait du sport.
Qu'est-ce qui les fait rêver, les gens? C'est l'Olivier Letton, ce sont les stars.
Est-ce que c'est quelque chose que vous entretenez à un stade que ça devienne toxique?
On prend ce but à la 93e minute et les joueurs qui pleurent. Et là, il faut relever tout le monde, ce que j'ai fait.
À quel moment, en fait, c'est fait au détriment de son propre bien-être?
On est un petit peu un ovni. On va être à notre 6e exercice bénéficiaire. L'an dernier, on a été de loin le club le plus bénéficiaire au monde.
Alors, pourquoi vouloir sauver les autres?
On peut dire que ce qu'on a fait est absolument extraordinaire aussi, remarquable. Pour un joueur de football professionnel, venir au LOSC, c'est un environnement extraordinaire.
À quel moment on n'est plus simplement dans la générosité, mais on devient sauveur?
Une de mes fonctions, c'est de laisser un minimum d'espace à l'incertitude dans une activité où il y a de l'incertitude.
Merci à vous, monsieur Letton.
Merci à moi. L'Olivier Letton. What else?
Ah oui, c'est un personnage régulièrement évoqué dans Roten sans flamme. Olivier Letton, ou l'Olivier Letton, voilà pour les plus fidèles. Le président du LOSC depuis 2020, ancien président du Stade Rennais, ancien directeur sportif du PSG également. Un président qui bat tous les records en termes de vente de joueurs, plus de 600 millions d'euros engrangés par ses clubs sous sa présidence. On l'a vu cet été, 100 millions d'euros pour Boadi, 65 millions d'euros pour Fernandez Pardo. Jean Baumel, notre correspondant dans le Nord, est avec nous. Salut Djibo.
Salut Benoît, salut Jérôme, salut capitaine, salut Pascal.
Et justement, Djibo, tu t'es amusé à dresser le bilan sportif et économique de la présidence de l'Olivier Letton à Lille.
C'est assez impressionnant quand même, parce que rappelons quand même qu'il est au LOSC depuis décembre 2020, parce que Lille se porte pas mal, puisqu'il joue le titre face au PSG, mais les comptes vont très très mal. C'est Gérard Lopez, le président, propriétaire du club. Et on ne savait pas à l'époque, mais il y avait quand même 400 millions d'euros de dettes. Donc le club est repris par Merlin Partners, qui est une société luxembourgeoise, et qui installe Olivier Letton pour essayer de trouver des solutions. Et il le disait d'ailleurs à l'époque, s'il n'y avait pas l'intervention de Merlin Partners, peut-être que le LOSC n'aurait pas terminé la saison et n'aurait peut-être pas été champion de France. C'était avec le coach Christophe Galtier, vous en souvenez à l'époque. Donc les 400 millions de dettes quand même ont été résorbés en 4 ans, même un peu moins, puisque c'est en octobre 2024 qu'Olivier Letton, par son travail, et je vous donnerai d'autres chiffres que ce qu'a donné aussi Benoît il y a quelques instants, mais là quand même même réduire une dette de 400 millions d'euros en 4 ans, c'est énorme. Et le LOSC a retrouvé des capitaux propres en juin 2025. Là, c'est sa 6e année à la tête du LOSC. Donc 600 millions d'euros de vente de joueurs. Alors c'est vrai qu'on retient les derniers, hein, Bouadi, 100 millions d'euros, Fernandes Pardo, 65, mais aussi Yoro, rappelez-vous, 62 millions d'euros à Manchester United.
Ouais,
Chevalier, l'année dernière.
Osimhen, c'était pas lui.
Non, Osimhen, c'était un petit peu avant. Ouais. Et puis surtout, ça n'a pas rapporté grand-chose.
Oui,
il y a beaucoup de monde qui se sont servis. Ouais. Et je crois que entre les 80 millions d'euros d'Osimhen et ce qui reste, c'est 12. Onana, rappelez-vous, Onana, 39 millions d'euros aussi. Yeah. Botman, 37 millions d'euros. Bon, je vais pas tous les faire. Et puis, en 2020, jusqu'à aujourd'hui, c'est 220 millions d'euros d'achats. Donc, vous voyez un peu la balance. Il y a eu 600 millions de ventes. Quasiment 380 millions de différence et des achats. Les joueurs les plus chers. Alors, il y a Jonathan David, mais c'était dans la période aussi transitoire. Hein, c'est l'année où il y a le titre. Mais sinon, en termes d'achat, c'est assez impressionnant. C'est pour la même période, hein, 2020 à aujourd'hui, c'est Lille est le 9e club de Ligue 1. Rennes a dépensé plus 600 millions d'euros pour acheter des joueurs. Marseille 570. Bon, je parle pas du PSG qui dépasse le milliard. Lille est quand même le seul club derrière le PSG à avoir fait 4 coupes d'Europe consécutives, dont celle qui va arriver avec la Ligue des Champions. Bref, Lille performe et ne s'affaiblit jamais. Quasiment, puisqu'ils sont toujours en rendez-vous et font partie des clubs incontournables du championnat. Ils sont toujours dans une situation très positive. C'est vrai que le travail d'Olivier Létang, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et il est impressionnant. Et même moi, on posait la question quand même, est-ce qu'il n'y a pas un club qui va aller le chercher pour redresser la situation? Pour l'instant, il est toujours à Lille.
Et c'est le thème de Rotten se chauffe ce soir, la prise de position de Jérôme Rotten. Pour Jérôme, Olivier Létang est l'exemple à suivre pour tous les présidents de Ligue 1. Bravo Jérôme, c'est ça que tu penses et que tu veux défendre ce soir dans ton émission.
Ouais, qui l'eût cru, avec tout l'amour que j'ai pour Olivier. Non, mais je plaisante. Après, moi, je lui mets des taquets à Olivier parce que, en effet, il s'aime bien.
Oui,
et
c'est drôle.
Il s'aime beaucoup.
C'est un personnage du championnat.
Oui, c'est un personnage. Et puis, surtout, ça fait pas mal d'années que je le connais. Donc, je sais comment il a pu être, que ça soit à Reims, que ça soit au Paris Saint-Germain et après à Rennes. Et surtout, ce qu'il a laissé aussi comme trace dans ces clubs-là, il y a du positif, il y a du négatif, mais peu importe. Il faut regarder le rôle de président lui convient très bien en fait, et c'est pour ça que je voulais faire un avis là-dessus et comme profiter de parler d'Olivier Létang pour parler du LOSC parce qu'il
joue ce soir, hein, en effet.
Non, mais il joue ce soir. C'est un club qui est Djibo. Ouais. Je parle sous le contrôle de Djibo, mais qui reste très ambitieux. On le voit au niveau sportif, parce qu'il y a l'aspect financier. Djibo a donné les chiffres, donc je vais pas les rappeler. Mais au niveau sportif, les ambitions sont là. Des fois, on peut croire que quand t'as cette stratégie, si tu veux, de bien vendre et pas trop recruter, forcément, t'as un effet négatif sur les résultats sportifs. C'est comme ça, hein. Si t'investis pas plus sur des bons joueurs que tu payes plus cher, parce que les bons joueurs ou les très bons joueurs, tu les payes plus cher, t'as un effet négatif sur les résultats. Là, c'est pas le cas. Ils progressent. L'année dernière, ils ont fini 3e. C'est le meilleur classement depuis qu'Olivier Létang est arrivé.
C'est surprenant.
Il y a titre de champion. Oui, c'est moitié de saison.
Ouais,
2021.
Titre de champion, c'est moitié de saison, c'est période Covid. Alors, je veux pas minimiser ce titre-là. Bien sûr, t'as raison, Djibo le rappelait. Mais sur une année complète, la meilleure année, c'est l'année dernière en termes de classement. Et c'est vrai que ils ont réussi parce qu'il est pas tout seul, mais lui dans sa stratégie à bonifier des joueurs, à bien vendre, parce que ça c'est aussi son portefeuille et les gens qu'il arrive à convaincre aussi, parce que c'est pas juste miraculeux ou les agents qui font le job, lui aussi
quand un talent est détecté, il a l'opportunité
de s'exprimer. Il est à l'affût, il a
toujours une solution sur une vente.
Et puis il est assez malin. En plus, il est assez malin dans les discours. Rappelle-toi ce qu'il disait en début de mercato avec Boadi.
Oui.
Sur Boadi.
Oui.
Et puis
personne peut se payer Boadi.
Et à l'arrivée, c'est sans patate. Et après, Fernandes
Pardo ne partira pas.
Il partira pas. Il est parti à 65 millions. Et même à 45, moi, je l'aurais emmené, ou à 40 ou à 30, tu vois. Donc à l'arrivée, c'est un mec qui là-dessus, franchement, tu peux dire que bravo. Et quand tu vois que tous les clubs galèrent financièrement aujourd'hui parce que il y a plus de droits télé, on est à la ramasse complet et ça va pas aller en s'améliorant avec toutes les infos qu'on a. Et ben, automatiquement, tu te dis bravo Olivier par rapport à ce que tu mets en place.
Et c'est un exemple à suivre.
Largement. Il n'y a pas que ça autour de Lille. Bon, il y a l'aspect sportif, l'aspect financier, mais moi je parle sous l'autorité de Djibo qui est le maître des lieux là-bas. Auparavant, il y avait un club qui était populaire et qui remplissait son stade. C'était le Racing Club de Lens. Et qui
ah bah ça, c'est le club de Djibo, ça.
De le remplir. Et puis il y avait des clubs qui étaient des bons clubs. À l'époque, Valenciennes a été en Ligue 1 et Lille également. Mais sur le plan populaire, c'était pas des clubs qui remplissaient les stades. Aujourd'hui, je crois que le stade Pierre Mauroy, il est quasiment plein à tous les matchs, non?
T'as une moyenne. Thibaut. Bah écoute, quand Olivier Létang est arrivé, ils étaient à 33 000 de moyenne par match. Aujourd'hui, ils sont à 44 000. Et il y a 33 500 abonnés, c'est-à-dire 1 500 plus que l'an passé, c'est un stade de 50 000. C'est vrai que la comparaison, c'est vrai qu'on a toujours dit balance, forcément, ça remplit. Puis bon, le stade n'est pas assez grand. À Lille, on dit à un moment, le stade est peut-être trop grand, mais ils arrivent de plus en plus à le remplir. Il y a la Ligue des Champions qui va arriver. Non, il y a vraiment un essor au niveau de la venue. Oui, voilà, de la venue, oui, des supporters. Et même en termes d'ambiance, il y a eu vraiment de gros progrès. Parce qu'on a toujours comparé avec Lens, comme on a pu comparer avec Lyon et Saint-Etienne à l'époque. Et peut-être encore aujourd'hui. Mais oui, il y a une vraie évolution. Et voilà, au niveau populaire, on sent qu'à Lille, ça commence à bien venir.
Après, il y a des bémols aussi. On peut passer la parole à Pascal. C'est qu'effectivement, économiquement, ouais, les clubs vont bien. Après, c'est toujours l'objectif des clubs français. On vise quand même un trophée de temps en temps. Il n'y a pas de trophée remporté par Olivier Létang en tant que président.
C'est dur.
Mais d'autres l'ont fait. Hein. Nantes l'a fait, oui, Toulouse l'a fait. Il y a des clubs progressistes qui sont
pas à l'abri d'une bonne surprise.
À aller chercher un trophée, Pascal. Quel est ton avis à toi? Est-ce que c'est l'exemple à suivre?
Ah non, l'OM, non.
Non, mais je vous écoute. C'est très bien. Montez-lui la sauce. Faites-lui le lubrifier le bien. Jérôme Bretel. c'est bien, les 100 millions, les 200, les 600, les clubs où il est passé avant, les moins de 100, c'est bien, monsieur Létang, c'est bien. Mais quand vous avez vécu là, qu'il s'est passé ce qui s'est passé, je ne vais pas être méchant ce soir parce que je préfère, et personnellement je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, et ça ne regarde personne, mais quand il y a des chefs d'entreprise comme ça qui font que tu es toujours au-dessus pour ce club-là. Après, Bruno Genesio, un jour, m'a dit, je dirais ce que j'aurais à dire. J'attends toujours. Mais quand tu gagnes rien, qu'est-ce que tu te masturbes, mais ça va sortir quoi?
Bah après, les gars, vu le contexte actuel, oui, Pascal,
après en Ligue 1, c'est vrai que le PSG a raflé tout.
Il
n'y
a pas
de
gros mots, on me dit au micro, pas de gros mots. Mais on va dire quoi?
Non mais
il n'y a rien, un titre de champion, c'est bien, mais quand tu sors autant d'argent. Oui, mais vas-y, Jérôme.
Non, ce que je veux dire, c'est que je comprends ta vision, et ça, c'est plus d'un problème humain entre les deux, et perso, et ça te regarde, et encore une fois, je veux pas interférer là-dedans. T'as ton vécu qui est pas terrible avec Olivier Létang, la relation était pas bonne pour X raisons, et ça encore une fois ça te regarde. Moi je pense que humainement, en effet, il y a des choses où on peut lui reprocher beaucoup de choses dans certains clubs sur ce qu'on m'a dit, mais moi je parle juste, c'est factuel en fait. Oui, c'est factuel, le rôle de président, ouais, aujourd'hui, tu peux pas lui il donne les moyens.
C'était avec Monsieur Aulas. Pourtant, c'était pareil. J'ai dit, et pourtant là, j'étais acteur avec ce qu'ils m'ont fait monter tout ça. Bon, enfin bref, mais j'ai toujours reconnu que félicitations. Tu gères ça comme une grosse boîte. Tu réussis. À la place d'être en moins, tu es en plus. Mais à un moment donné, je suis d'accord.
Il y a des choses. Mais à un moment donné,
c'est comme l'OM. Et à la fin, c'est, oui, bien beau tout
que
ça.
Tu reviens.
Non, mais est-ce que tu gagnes rien?
Oui, mais est-ce que tu peux reconnaître aussi que en Ligue 1, en effet, t'essayes de gagner. J'imagine qu'Olivier Létang et tout l'encadrement sportif à Lille, quand il démute d'une année, comme on a tous fait dans les clubs, avec ces moyens-là, quand tu joues une Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, pour cette année et tout, tu démarres le championnat, tu te dis, écoute, on va essayer de jouer les troubles faites, et pourquoi pas essayer d'aller gagner un titre. Mmh. Après, en effet, le PSG, tu regardes, à part l'année dernière, ils n'étaient pas en finale de Coupe. Mais sinon, les autres, ils raflent tout, ils gagnent tout, et c'est compliqué de lutter avec ce PSG-là. Ça, c'est la réalité. Et tu peux peux pas lui en vouloir, Olivier Létang, là-dessus. Parce que je pense que si tu lui parles, il fait une interview demain, il la fera pas dans Rotten sans flamme parce qu'il vient pas parler. Mmh. Et puis, en plus, moi, tu sais, Pascal, quand je parle en bien sur lui, et c'est la réalité, et c'est un exemple à suivre sur sa gestion de ce club-là, c'est que t'imagines que nous, il nous bloque les joueurs, on n'a aucun joueur de Lille.
Ah, il a un regard sur tout. C'est ça, des fois, qui est un peu terrible.
Oui, c'est terrible. Parce que nous, on reste des passionnés, Djibo. Je suis désolé qu'on le critique sur, ou qu'on se foute de sa tronche sur d'autres choses. Ça va, on sait aussi faire la part des choses et reconnaître son bon boulot. Et il en fait du bon boulot. Mais après, lâche. Pourquoi tu bloques les entraîneurs qui veulent venir parler et qui à l'arrivée, ils les empêchent de parler. Et puis après, ils te disent, non, moi, j'ai rien dit. Et puis, les joueurs, c'est pareil. Et ça fait trois ans qu'on n'a pas un joueur de Lille.
Après, donnons la parole.
Donc, c'est terrible.
Pascal, excuse-moi. Il y a une vraie demande d'avoir plus de visibilité, d'entendre plus parler de Lille. Bon, c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir des interviews. Hein. On n'est pas les seuls. Hein.
C'est terrible. C'est terrible.
Et pourtant, vu le travail effectué, il y a un décalage. Il y a un club voisin qui donne beaucoup. Il a quand même gagné des titres. Il a gagné la Coupe de France, la Coupe des Champions. Bon, c'est une philosophie qui est différente, mais des fois les supporters se disent vous aimez pas Lille, vous voulez pas en parler.
C'est vrai. Exactement.
Noé avec nous, supporter du LOSC.
Salut Noé.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Noé. Bienvenue Noé.
Merci beaucoup.
Écoute, alors est-ce que tu es d'accord avec moi sur déjà l'Olivier Létang Redondo qui est un exemple à suivre pour notre Ligue 1?
Complètement. Je pense qu'il faut jamais oublier que il y a moins de 10 ans, le LOSC a quand même failli disparaître. Et moi qui suis supporter du LOSC depuis tout petit, j'ai eu très peur que mon club disparaisse. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissant parce qu'on a un président qui a maintenu le club à un très haut niveau. On est tout le temps dans les top 5. Enfin, c'est vraiment rare qu'on soit pas dedans, même sur les 15-20 dernières années. Mais depuis qu'il est là, en tout cas, il a maintenu le club à un haut niveau de performance. Et en même temps, il a enlevé toutes les dettes. Et vraiment, j'ai vraiment eu peur. Enfin, je pense que là, j'ai vraiment beaucoup je pense fort aux supporters des Girondins et je me dis que moi j'ai beaucoup de chance, donc oui, je suis très reconnaissant à Olivier Létang et pour moi c'est un très grand dirigeant. Et après je comprends que vous puissiez être frustré sur parfois le fait qu'il puisse peut-être être un petit peu contre le fric, mais d'un point de vue de supporter, c'est un très grand dirigeant.
Oui, mais Noé, est-ce que tu ressens ce que nous on est en train d'exprimer? C'est pas prêcher pour notre paroisse, essayer d'avoir des invités, c'est pas ça l'enjeu, c'est avoir une transmission entre les acteurs du LOSC et les supporters. Est-ce que tu ressens toi aussi en tant que supporter du LOSC ce décalage, cette frontière entre les acteurs et vous les supporters? On n'entend pas les joueurs s'exprimer, on les voit jamais dans différentes actions, on sent que le président contrôle tout. Est-ce que tu le ressens toi?
Oh, pas vraiment, parce que moi, avant tout, je regarde les matchs. Et après, ce qui se passe dans la semaine, à l'entraînement ou pas, j'ai envie de te dire que moi, tant qu'après un match, on va bien jouer, que les joueurs vont toujours venir voir les supporters à la fin des matchs pour les saluer. Et c'est le cas. Quand je suis allé voir un match un peu pourri où on galère à gagner à domicile, qu'on se fait une équipe qui joue le maintien, je crois que c'est Nice, on fait un vieux 0-0. Bon, les mecs sont quand même venus nous voir. Et moi, ça me suffit, en fait. J'ai pas besoin d'avoir 10 000 infos, tant que j'ai des interviews à peu près régulières et surtout que...
Les interviews régulières.
Oh, bah si, quand même. Après, c'est sûr que le contenu peut-être est filtré, ça, j'en sais rien, mais honnêtement, de mon point de vue, de supporter basique, on va dire, vraiment, ce qui compte, c'est quand même les matchs.
Non, mais c'est intéressant.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Donc voilà, et pour moi, Olivier Létang, c'est quand même quelqu'un qui a la particularité d'être à la fois un grand dirigeant côté entreprise, on va dire, et en même temps d'avoir une vraie expertise en matière de foot. Et il donnait un exemple très intéressant sur Timothy Weah, en disant hier en conférence de presse, Weah, il vient le voir à la fin du mercato d'hiver, en disant qu'il a pas de temps de jeu et qu'il veut trouver une porte de sortie. En même temps, Fonseca lui dit qu'il a besoin d'un latéral droit. Il se trouve que Weah a déjà pu dépanner à ce poste et a été convaincant. Et au lieu de recruter un latéral droit, il lui dit tu mettras Weah à ce poste. Et au final, il le vend 12 millions quelques mois plus tard. Donc il a pas dû recruter un latéral et en même temps il a relancé un joueur qu'il a pu vendre. Et ça montre à quel point non seulement il connaît le foot, parce que je pense qu'un président sans cette connaissance n'aurait pas forcément eu cette réponse-là. Et en même temps,
après il a joué aussi, c'est son expérience de joueur.
Je vais mettre peut-être les pieds dans
le plat,
mais finalement, est-ce que c'est pas la bonne méthode pour diriger un club par rapport à ces clubs où tout le monde explique, veut tout expliquer, où le directeur sportif vient faire sa petite conférence, où l'entraîneur fait sa conférence, où le président dit ce qu'il a à dire, où les joueurs disent ce qu'ils ont à dire. Alors évidemment, pour nous, c'est mieux peut-être, ça donne du grain à moudre, mais est-ce que finalement, la discrétion, la concentration sur l'entraînement et sur les matchs, et pas trop s'éparpiller, c'est peut-être pas la bonne manière.
Il l'a dit Jean-Michel, il n'y a pas que la communication. Écoute Gibo et les relations qui étaient très tendues en fin d'histoire entre Genesio et Létan, par exemple. Quand tu en as un qui brille sportivement et l'autre qui veut tirer la couverture à
l'envie. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais finalement, est-ce que quand tu regardes les résultats financiers, sportifs, populaires, tu peux pas dire quand même qu'il soit véritablement.
C'est pour ça que Jérôme a exprimé ce point de vue.
C'est sûr. C'est pour ça. Et puis en plus, si tes supporters comme Noé sont contents des ambitions du club et ce qu'ils voient, écoute, t'es obligé de le féliciter et de dire
dire bravo Olivier Létan.
Bravo Olivier Létan.
Bien sûr,
bravo Olivier.
Vas-y Jean-Michel, dis-le toi.
Pourquoi je dirais pas bravo, félicitations Monsieur l'Olivier Létan.
Vas-y toi Pascal, dis-le.
Ouais, tu veux, je te pompe quoi?
Non. Oh. D'accord.
Okay. Allez,
j'aurais essayé. Merci Jean Baumel d'être venu dans Rotten Sans Flamme.
Et puis, espérons qu'on aura des joueurs lillois quand même cette saison. Il y en a. Quand tout va bien, ils font profiter.
Ils sont les bienvenus.
Ils sont les bienvenus. Quand t'es dans la crise,
Surtout qu'il y a la Ligue des Champions cette année. Donc il y a plein de choses. On va les mettre en avant. On va en parler. On va venir certainement aller à Lille faire des matchs.
Oui. Et tu as vu que on parlait des gardiens. Tu as vu, ils ont fait signer encore un gardien étranger.
Orlando Gil, ouais. Ils ont un gardien numéro 1 étranger, un numéro 2 étranger. Tout à fait.
Sûr qu'il y a un Paraguay. Ouais.
Gil, le Paraguay. Hein.
Ah, tout à fait. Ouais. Paraguay. Ah,
ouais. Ça s'est bien passé en plus avec Kylian Mbappé et tout. Ça va être sympa.
Ça va, tout va bien.
Merci Jean Baumel. Bye bye, bonne soirée.
À très vite,
les amis. Je suis supporter du LOSC qui est venu participer au débat et dans un instant, la VAR de Rotten sans flamme. On va parler de l'Olympique Lyonnais, le club préféré de Jean-Michel Larcou. Est-ce que le départ de Malik Fofana est un vrai coup dur pour l'OL? 32-16, supporter lyonnais pour participer au débat. Tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h30 sur RMC, on est là avec Benoît Boutron, avec Pascal Olmeta et avec Jean-Michel Larquet. On se régale depuis 18h. On a parlé de l'Olivier Létan, de Redondo pendant une petite demi-heure. Ça a fait plaisir à Pascal. Et ben on va continuer à parler. Pas de Lille, Pascal, t'inquiète pas, on va parler de Lyon, ton ancien club. Club aussi, c'est vraiment sur mesure le programme.
On fera le point dans un instant d'ailleurs sur l'effectif avec Edouard G. Puis le quiz à 19h45, tous contre Rotten. Une carte cadeau de 100 euros à valoir chez Maison Scarlett, marque française de fabrication de boîtes à montres et boîtes à bijoux. Des trousses de toilette également, des grandes, des petites, en cuir, en velours. C'est vraiment du beau matériel. Pour tous les goûts, tous les budgets, 32-16 touche 4 au quiz au 7-32-16. Jérôme, 19h31, oui. L'arbitre vidéo t'appelle.
Jérôme, oui. Je t'invite à écouter ça.
Mentalement, nous avons une équipe plus forte que pour moi est importante aussi physiquement.
La VAR de Rotten sans flamme.
Et voilà l'optimisme sur cette saison de Paulo Fonseca, interrogé sur la qualité de son effectif pour cette saison. Parlons-en avec Edouard G qui a recueilli ses propos. Salut Edouard.
Salut Benoît, salut Jérôme.
Salut Doudou.
Salut Jean-Michel.
Le dossier Malik Fofana qui nous a occupé ces derniers jours. Il est finalement parti à Sunderland. Et on vient de l'entendre.
Ah oui, c'est Sunderland.
À Sunderland finalement. C'était pas Crystal Palace, non, c'est pas Ipswich, non, c'est pas Arsenal, c'était bien Sunderland. On l'a entendu, donc Paulo Fonseca est confiant sur la qualité de son effectif alors.
Ouais, alors parce que je rappelle, on en fait beaucoup sur Malik Fofana, mais quand on regarde les stats l'année dernière, il se blesse le 26 octobre, malheureusement. Il revient sur une jambe à 4 matchs de la fin. On va dire qu'à partir du 26 octobre, il n'est pas là. Au total, l'OL l'année dernière a fait 48 matchs. Lui participe à 16, dont 12 en titulaire. Vous êtes fort en maths, c'est un quart de la saison. Et ce quart de la saison, il a marqué 2 buts et fait une passe décisive et aucun but en Europa League. Voilà pour ses stats de l'année dernière. Donc l'OL a quand même fini quatrième sans lui, d'une certaine manière. Alors ensuite, c'est pas une surprise qu'il parte, hein, parce que l'OL avait anticipé avec notamment Julien Duranville et au final aussi Nakamura, mais même si c'est pas le même profil. Alors au niveau global, hein, 12 départs par rapport à la photo officielle l'année dernière, 8 transferts et 4 prénoms conservés, 8 arrivés. Il y a qu'une quinzaine de joueurs qui restent d'une année sur l'autre. Alors sur le papier, au vu des suiveurs, on se dit que c'est cohérent, que c'est meilleur, qu'il y a plus de solutions. Ça, c'est le regard de l'extérieur. Bah, de l'intérieur, on a posé la question, Paolo Fonseca, comment il voit ce groupe? La réponse, vous l'avez ici.
Je pense que est plus équilibré. Nous avons de plus solutions en ce moment. Mentalement, nous avons une équipe plus forte, que pour moi est important. Aussi physiquement. Je pense qu'on a apporté des joueurs qui sont des joueurs avec personnalité, joueurs forts mentalement, comme Félix, comme Mats, comme Zach. Je pense que la grande différence, c'est cet équilibre et la force mentale de cette groupe.
Alors Zach, c'est Atekame, hein, défenseur qui est plus concentré, appliqué. Félix, c'est Félix Barreur, le défenseur central que l'on voit très charismatique, hein, vraiment très calme. Mats, c'est Mats Bidstrup au milieu de terrain, très batailleur. Et puis il y a aussi Kyle Boudache. Voilà, on a vu déjà que c'est des joueurs qui ont déjà apporté dès leur première apparition. Ils ont fait déjà d'une certaine manière sensation.
C'est donc la VAR de Roten sans flamme. Est-ce que le départ de Malik Fofana est un vrai coup dur pour Lyon, d'après toi, Jérôme? Parce que on fondait beaucoup d'espoir sur lui, joueur de grand talent, blessé toute la saison dernière. Edouard nous a dit, il a joué un quart des matchs. Mais on comptait sur lui cette saison, quoi. En tout cas, s'il y avait eu Ligue des Champions, il aurait pu rester, peut-être.
Bah, c'était pas peut-être, c'était même sûr. Je crois que, Edouard, on en avait parlé. L'objectif, il est là. Ils ont pris une grosse claque. Derrière la tête.
C'est lui qui avait marqué en plus au Groupama Stadium.
Oui. Bah, après, il y avait beaucoup d'espoir sur Fofana qui a été absent très longtemps l'année dernière à cause de sa blessure à la cheville. Donc l'année, je te dirais que là où c'est pas problématique, c'est que l'année dernière qui a été très bonne de la part des Lyonnais, ils l'ont fait une grande partie de la saison sans Fofana et ils ont rivalisé avec les meilleures équipes françaises pour après s'écrouler sur les deux dernières journées. Et à ce que je sache, Fofana, il était là.
À la fin de saison, il a joué, Edouard, Malik Fofana.
Oui, mais il était largement diminué, mais il était dans le groupe.
Non, mais il était dans le groupe, il était revenu. Donc, comme quoi, tu vois, des fois, tu vois. Alors après, attention, Fofana est un très bon joueur. Il a encore des axes de progression, donc il n'y a pas de souci. Je suis sûr qu'il fera une très belle carrière et je lui souhaite, en tout cas. Mm. En plus, sa personnalité un peu calme comme ça, introvertie, je pense qu'il mérite de toute façon de continuer à bosser parce qu'il doit bosser beaucoup. Mais n'empêche que ils ont pas perdu Léo Messi, quoi, tu vois. Donc ils
le
ont
départ de Moreira est plus préjudiciable. Lui,
oui, parce que Moreira,
qui était la révélation de la saison.
Moreira était très bon, très influent dans le jeu lyonnais tout au long de la saison. C'était une vraie belle surprise.
Gros volume.
Après, il est parti, donc il faut vivre sans. Donc oui, lui, c'est plus problématique. Mais ça, il l'avait préparé déjà.
Ouais. Ah oui, c'était vendu dès le début.
Donc ensuite, t'as un recrutement. Edouard vient de te le dire. L'année dernière, à la même époque, c'est toujours la même chose. C'est le même discours qu'on avait avec Lens et Jean-Louis Leca. À la même époque, l'année dernière, on était très inquiet pour l'Olympique Lyonnais. Donc aujourd'hui, moi, je vais pas être plus inquiet cette année. Ils sont dans la continuité. C'est un an de plus. Tu sais, il y a des signes qui trompent pas. Alors bien sûr que pour l'instant, ça nous donne pas raison. Ils ont galéré avec ce match contre le Havre. Pour après, il fallait surtout digérer la déception contre Fenerbahçe, l'élimination. Mais n'empêche que ce qu'ils ont vécu l'année dernière avec cet entraîneur-là, tout un groupe, tout un club, il y a beaucoup de sérénité, il y a des mecs qui s'entendent bien. Et ça, je pense que t'es à l'abri quand même d'avoir des très mauvaises surprises. Donc pour moi, je reste quand même assez optimiste.
Ouais. Jean-Michel, est-ce que tu penses que c'est un vrai coup dur d'avoir perdu Fofana, toi ?
Non, mais c'était un passage obligé. Tout le monde savait que de toute façon, plus, financièrement, l'Olympique Lyonnais était obligé de le transférer et de transférer un joueur qui l'an passé, on est bien d'accord, et Doudou vient de le dire, n'a pas été l'alpha et l'oméga des performances lyonnaises l'an passé, puisqu'il a été blessé et un attaquant qui marque deux buts et qui fait une passe décisive dans la saison. On ne peut pas dire non plus qu'il ait joué un rôle majeur. Là, il joue un rôle majeur par le transfert et par l'argent qui rentre dans les caisses de l'Olympique Lyonnais. Mais moi, pour l'Olympique Lyonnais, c'est pas le départ de Malik Fofana, et je vais peut-être radoter, mais vu mon grand âge, c'est un petit peu normal. Ouais. C'est pas grave. Et c'est normal, voilà. Mais il y a des joueurs qui l'an passé ont été très très bons, très très bons, et plutôt que de s'apitoyer sur le départ de Malik Fofana, qui de toute façon était un passage obligé, moi je vais me regarder de très près ce qui l'an passé ont été les clés de voûte de cette équipe, et qui cette année sont un petit peu en dedans.
Tu penses à Tolisso?
Je pense à Tolisso en premier. Et puis quand j'écoute Fonseca, même si parfois je trouve que sa communication est un petit peu bizarre, mais force est de constater que le seul match, la vraie référence depuis ce début de la saison, c'est une victoire à l'extérieur avec 11 joueurs
à Toulouse.
Et je pense que ces 11 joueurs ne pouvaient pas faire pire que les 11 joueurs titulaires lors de la première demi-heure contre Fenerbahçe au match retour. Ouais. Donc, je vais partager un peu son optimisme. Ils ont bien travaillé, mais effectivement, il va falloir qu'il y ait des joueurs qui continuent à être les patrons et les cadres de cette équipe. Mmh. Et ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Ouais. Ça, on ne peut pas savoir. Mais, par exemple, le petit Humbert. Edouard. Le petit Humbert, on en a beaucoup parlé l'an passé. J'ai l'impression sa progression est un petit peu au ralenti actuellement.
Il s'est blessé à Vigo, donc il a eu du mal à
revenir. C'est moins fulgurant que l'année dernière.
Il sera dans le groupe demain, en fait.
Et il y a Nakamura, le joker, le fameux joker Nakamura, qu'on n'a pas pu enregistrer parce que le transfert de Malik Fofana a tardé, mais qui arrive bien en tant que joker et qui arrive de Reims en Ligue 2, Edouard. Hein.
Exactement. Alors il est à cause de, vous savez, des règles de la DNCG là. Quand on est surveillé par justement la DNCG, il faut un peu plus de temps pour le valider. Donc le contrat n'est pas valable pour demain soir. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans le groupe. Mais le premier japonais de l'OL sera là le prochain match.
Bon, Pascal, est-ce que tu penses que c'est un vrai coup dur d'avoir perdu Malik Fofana pour l'OL?
Ben, tu sais quoi, les 40 millions dans les comptes ne remplacent pas 90 minutes de talent. On peut dire ce qu'on veut. Moi, ce joueur, le peu qu'il a joué, m'a impressionné. Sa percussion, sa finesse, son style. Là, ça aurait pu vraiment... Mais bon, après, tu sais, on peut dire ce qu'on veut. Mais quand l'Olympique Lyonnais avait besoin de cet argent, tu es obligé de vendre. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que ces clubs qui ont besoin, toujours à la dernière minute, de faire des transferts rapides comme ça... Pourtant, ils avaient le temps. Hein, et bon, voilà,
c'était une vraie histoire. Hein. Un feuilleton du mercato qu'on a suivi minute par minute grâce à Edouard et Fabrice Hawkins. L'histoire des clubs anglais, Crystal Palace, Sunderland, Arsenal au début.
On ne va pas remettre pas une pièce dans ma machine, là, parce que sinon, je vais répéter un câble.
Bah, accueillons Madi, supporter de l'OL.
Salut Madi.
32-16. Salut Madi.
Bonjour, bonsoir.
Salut, bonsoir Madi. Bon alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, des ambitions de Lyon, même avec le départ de Fofana?
Alors, d'abord, je voudrais parler proprement du départ de Fofana. Alors, évidemment, c'est un très bon joueur, mais on savait effectivement qu'il fallait le vendre. Et moi, ce qui me pose problème, c'est pas tellement la vente, parce que, comme le disait Jean-Michel, c'était plus ou moins prévu.
C'était programmé.
Je dis plus ou moins, parce qu'en cas de victoire contre Fenerbahçe, peut-être
qu'on va
regarder. Mm-hmm. Mais je pense que la défaite contre Fenerbahçe, ça nous met deux fois dedans. Hein, parce qu'on perd 40 millions, je crois, en droit télé, en Ligue des Champions. Mais je pense qu'on perd aussi 50 millions par rapport à Fofana. Parce que je pense que c'est un joueur qu'on aurait pu vendre beaucoup plus cher. Et moi, c'est ça qui me pose problème. C'est pas tellement d'avoir vendu, parce qu'on savait qu'il fallait le vendre. Et en plus, je trouve qu'il est plutôt pas mal remplacé. Mais le problème, c'est le vendre 30. On va toucher à peu près 30 millions. Et je rappelle, parce que vous parliez tout à l'heure de l'étang et de ses ventes. Puisque, bon, maintenant, il faut parler BTS commercial quand on parle de football français. mais l'année dernière, on a quand même vendu Ryan Cherki. Ryan Cherki, 40 millions d'euros. Ryan Cherki.
C'est pas assez bien vendu, c'est ce que tu dis.
Cette année, on va toucher 30 millions pour Fofana, et après, on nous dit que Mathieu Louis-Jean est un génie. Alors, effectivement, dans l'autre sens, je trouve que c'est plutôt un bon directeur sportif, mais dans le sens de la vente, mais c'est une catastrophe qui est en train de se passer à l'Olympique Lyonnais. Et j'ajoute que effectivement, les achats de dernière minute, nous, on est des pigeons, on est des gogos, parce que je rappelle que les clubs, ils font exprès de venir nous les chercher.
Ah, mais de toute façon, c'est sûr. Qu'on va vendre. Écoute, c'est la stratégie, et tout le monde sait. Connaît les difficultés de Lyon aujourd'hui. Et donc, alors après, moi, c'est pour défendre Mathieu Louis-Jean. Et c'est pas parce qu'il est venu dans l'émission que je vais passer mon temps à le défendre. Mais là, je suis désolé. La priorité de Lyon, c'était en effet de récupérer une somme intéressante.
Et au moment de la vente de Cherki, c'était de survivre.
Et puis Cherki.
Quand t'es obligé de vendre, tu vas moins bien. Hein, non, c'est une règle absolue.
Et tu sais. 21
ans, international belge. 30 millions d'euros.
C'est vrai, non mais, ouais, mais oui, sûr, mais les clubs, raison, les clubs en profitent. Ce que je veux dire, c'est que regarde à Lille ce qui se passe. Parce que là, je suis d'accord avec toi. Quand tu vois que Fernandez Pardo est parti pour 65 millions et que, à l'inverse, tu te dis Fofana, il est parti pour 40 millions. Alors oui, ou 35, c'est.
35, Edouard.
Ouais, 35.
Oui, avec les bonus, ça fait 35.
Voilà, donc 35. Tu te dis, non mais attends, franchement, quand tu compares les deux, moi demain, je suis directeur sportif d'un club, j'ai à recruter soit l'un, soit l'autre, je me pose même pas de questions, je vais prendre Fofana. Ouais,
il faut reverser quand même 5 millions à la Gantoise, je crois.
Hein, en plus. Mais c'est les dynamiques des clubs, en fait. Et quand t'as une bonne dynamique, que t'es serein, que t'as bien vendu, comme le cas d'Olivier Létang, on en a parlé dans la deuxième heure au début, il y a une demi-heure.
L'Olivier Létang.
Eh ben, le club, il vit bien, donc il est pas obligé de vendre. Donc les clubs, s'ils veulent un de leurs joueurs, forcément, ils vont payer, surpayer.
Bah ouais.
Et à l'inverse, Lyon, on savait tous que avec cette non-qualif, et là, ton raisonnement, il est très bon. Ce que je veux dire, c'est que cette non-qualif, cette élimination en Ligue des Champions contre Fenerbahçe, t'as bloqué sur deux choses. L'achat éventuel ou le prix de certains joueurs qui auraient pu augmenter.
La valorisation des joueurs.
Et oui, avec la Ligue des Champions, c'est sûr. Ouais. Et t'aurais bien mieux vendu certains joueurs au mois de janvier avec la Ligue des Champions, quoi qu'il se passe. Et puis surtout, les 40 millions en moins des droits télé. Et Maddy, ça, c'est terrible.
Merci beaucoup d'être venu dans Rotten sans flamme.
Merci Maddy, en tout cas,
pour parler de l'Olympique lyonnais. Merci à Edouard G. Merci Edouard. Et demain,
à la prochaine.
Tu seras en direct dans le multiplex. Ouais. Hein, parce que...
ah oui, là, je crois que j'ai fait la totale cette semaine.
Et voilà. Et ouais, tu as été là toute la semaine. Parce que demain, c'est match en direct. Hein, 19h, Lyon-Auxerre. En direct,
là, je m'impose.
Un stadium magnifique.
Quelle envergure. Mais quelle envergure.
Autre personnage charismatique, Louis Gerbier, qui va arriver dans un instant. Tous contre Rotten, le quiz de Rotten sans flamme.
Il est en grande forme.
Là, on descend depuis Georgette.
Jérôme Rotten, face à la doublette, l'archéo, le méta.
Là, on est au sous-sol.
Nous aussi, alors on arrive dans un instant.
On est au sous-sol. Sous-sol dans un instant.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h49 sur RMC, on est là, on est bien, et ben on finit les deux heures de Rotten sans flamme, c'est les 10 dernières minutes avec le quiz de Louis Gerbier. Luigi, il est là, il est à ma gauche, on est avec Benoît Boutron qui sera un bel arbitre aujourd'hui. Ou Gianni, c'est vrai. On est avec Jean-Michel Larquet, Pascal Olmeta. Oui, vous rêvez pas. Pascal Olmeta, Jean-Michel Larquet forment une équipe. Bon. C'est pas très rafraîchissant, mais au moins ils ont le mérite de tenir pendant deux heures.
Allez, on y va, c'est parti.
RMC, tous contre Rotten.
Bonsoir Louis Gerbier.
Salut l'équipe.
Louis. Voilà, le charisme de Louis qui envahit ce studio. Vont s'affronter ce soir pour une carte cadeau chez Maison Scarlett, Edem et Gaspard. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Salut.
Gaspard, 14 ans, incroyable, supporter du PSG. Tu veux jouer avec Jérôme?
Ouais, j'aimerais bien.
T'aimerais bien?
T'es pas obligé, gamin.
Cadeau, Gaspard. Et Edem, t'es avec Jean-Michel Larquet, Pascal et Olmeta. Ça te va?
Impeccable.
Allez, c'est parti.
Bon, tu diras pas ça tout à l'heure.
Quel est le thème du quiz?
Le thème du soir.
Gardien de but.
Allez, Gérard.
C'est vrai?
Il est fort. Mais un petit peu plus précis que ça, les gardiens français.
Ah, bravo Jean-Michel.
Ah, voilà, Pascal, normalement, c'est Pascal.
Toi, Pascal, c'est l'autoroute.
Pascal, c'est pour toi. Ah, hein,
c'est une autoroute.
C'est pour moi.
Allez. Pourquoi il était gardien, Pascal?
Ah oui, un grand gardien.
De musée.
Allez, on y va. On commence avec une question flash. Quel gardien légende de la D1 a gagné une FA Cup avec Arsenal en 2003?
Varmuz.
Oh oui, crac.
Guillaume.
Guillaume Varmuz. De son prénom.
Jean-Michel Pascal et Edem qui mènent à zéro.
Allez, on va faire une question Zizou.
Ah. C'est toujours les mêmes gestes.
Zinedine Zidane.
Toujours.
Zinedine
Zizou.
Tellement hâte qu'il vienne dans Rotten Sans.
Zinedine Zidane. Avec cette chanson-là, oui, il va venir.
Du coup, je serai en train de pleurer si c'est
vrai. Oui, bien sûr.
Oh, allez, quel gardien.
Quel ringard.
Quel gardien français, ouais, est devenu champion du monde avant même sa première sélection?
Charbonnier.
Ariola.
Oui.
Oh là 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 là. 2-0, je... Pascal, deux bonnes réponses, incroyable. Vache. C'est ton ami.
J'ai dit Charbonnier. Moi.
Ouais. Charbonnier, ouais.
Il en avait fait, ouais, un an avant, ouais, le 11 juin 97.
Il en a fait qu'une, ouais,
exactement.
On l'embrasse.
Allô, allô.
Sinon, il était sur le banc.
Allô, allô.
Allô,
allô. Ah, je suis à l'antenne, là.
Allez, 2-0.
Allez, question auditeur.
Edem contre Gaspard.
Edem, Gaspard. Qui était le troisième gardien des Bleus lors de la dernière Coupe du Monde?
Risseur.
Oh,
Gaspard.
Bravo.
Ouais, bravo.
2-1, réduction de l'écart.
Bravo, Gaspard.
Gaspard, tu parles Jérôme sur tes épaules.
Je suis fair play, je suis fair play. Mais bravo, Gaspard.
Bravo.
Question. Bravo, Gaspard. T'y rendis compte?
Tu te rends compte si tu poses une question à un supporter italien qui dans
quel
qui est plus forte?
Qui est plus forte?
Allez, on me fait un bel accent italien pour avoir le
avec
point.
Des accents, il
non,
a
non,
dit
t'adores
du gars,
ça, t'adores ça.
Deux coachs pour Roland McDonald.
Quel gardien français barré par une génération dorée en équipe de France a fait une grande
Sébastien
carrière
Frey.
Ouais,
et
bravo.
L'accent.
Et alors l'accent là,
Sébastien Frey.
Et voilà.
3-1. Jérôme, t'es pas dans ton quiz. Hein.
Bah écoute, il était rapide là.
Ouais, 3-1 pour
Sébastien
les anciens
Frey,
Jean-Michel Pascal.
Il a joué en équipe de France, qu'est-ce que tu racontes?
Oui, mais il a été barré. Il longtemps. A fait. Enfin, oui. Tu vois, genre.
Il était dans l'ombre des grands.
Ouais, et puis en plus, il y a une fois, il a fait une grosse boulette au moment où il pouvait commencer.
Ah bah j'étais là.
Ouais.
Ah, c'était l'éclairage.
Ouais.
L'éclairage.
Il y avait un de ses concurrents de l'équipe de France qui se réjouissait d'ailleurs.
Allez, on y va.
T'étais là, toi, Jean-Mi? Ce jour-là.
Question flash.
Dans, il est sur le terrain.
Dans, ouais, quel club espagnol Greg Coupé a-t-il joué?
Facile.
L'Espagnol.
L'Atlético.
Non, mais là, ça devient gênant.
De
4-1 pour Edem, Jean-Michel et Pascal.
La fessée.
Attends,
il y a la roue, il y a la roue, là, il y a la roue.
Qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veulent?
Ah, c'est moi, ça, je
crois. Je prends un joker.
Un joker.
Le Joker Kings League.
Et ça, c'est dingue. Soit il marque deux points, soit il perd son point.
C'est x2 en plus.
Exactement. Allez. Quel gardien a enchaîné 306 matchs en intégralité en Division 1
Bétori,
de 97 à 2006?
Cool.
Ah. Oui.
Ça dit cool.
6-0.
Ça devient gênant.
Allez, on y va, on est un petit peu en retard. On va faire la question con pour vous départager.
Ah ouais, mais non.
RMC.
Qu'est-ce que vous êtes con? Mais qu'est-ce que vous êtes con alors?
La question con.
Mal de match. Hein.
Vous êtes prêts? On cherche un gardien français. Quel ancien gardien permet de faire briller les voitures?
Oh, mais c'est nul ça.
Chrome.
Oui,
bravo. 7-0.
Dans le Chrome.
7-0.
Oui,
il a dit Chrome. Non, il a dit Chrome.
Il a dit Chrome puis le Chrome.
Il a dit Chrome et le Chrome.
Non, je suis pas sûr.
Rotel,
7-0, tu peux pas.
Rotel, va te garer.
Victoire d'Edem grâce à Pascal Olmeta.
7-0, 7-0.
Allez, adieu. Adieu, Rotel. Adieu, Rotel.
Rotel, 7-0.
Tous contre Rotel sur RMC avec Maison Scarlett. La marque française numéro 1 de boîte à bijoux et boîte à montres, jolie, pratique et accessible. Rendez-vous sur maison-scarlett.fr.
Merci Louis Gerbier, Pascal Olmeta, Jean-Michel Larquet. Dans un instant, Génération After avec Nicolas Jamin. Ensuite, l'After Live à 20h45. Toulouse, Lille ce soir, Jérôme.
Et demain, on se retrouve pour lancer la troisième journée de championnat de Ligue 1. Vous aurez tout dans le multiplex Ligue 1, comme tous les vendredis à partir de 18h. On sera là avec une superbe équipe autour de moi. Je vous embrasse, bonne soirée, à demain 18h.
RMC, jusqu'à 20h, Roten sans flamme.
Vous avez aimé l'émission ? Écoutez tout de suite ce que vous n'avez pas entendu sur RMC. Écoutez le carnet de notes.